Bombe à graines de plantes résistantes aux OGM. Grève d'arbres fruitiers pour échapper à la mainmise de l'État. Ralentissement de l'aménagement d'une forêt par la présence d'une plante invasive. Nos invités du jour appellent à faire alliance avec les espèces animales et végétales pour résister à l'effondrement du monde. Léna Ballot et Antoine Chopot publient un livre qui s'intitule « Nous ne sommes pas seuls, politique des soulèvements terrestres ». Ils y défendent une nouvelle politique de l'écologie contre le système capitaliste patriarcal autoritaire, mais avec les non-humains. C'est une forme de déconfinement radical de nos imaginaires politiques et de nos sensibilités qui ouvre la voie à ce qu'ils appellent un communisme interspécifique, un communisme désaffecté. Alors je les reçois aujourd'hui en compagnie de Maxime Chédin. Bonjour. Hello. Maxime, chercheur en philosophie, membre de la revue Terrestre. Nous allons démarrer cette conversation tous les trois avec Antoine Chopot. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu à Mediapart. Antoine laissera ensuite sa place à Léna Ballot, car en raison de nos configurations Covid, il ne nous est pas encore possible de recevoir quatre personnes en plateau. Maxime Chédin, je te donne la parole.
Merci. Mais ouais, je voulais peut-être partir d'une première question sur ce qui est un peu le point de départ du livre, le fait que vous partez d'un constat de l'existence d'une forme d'opposition entre deux conceptions de la crise écologique, du ravage écologique et du changement climatique, disons dans la pensée de gauche ou dans la tradition de gauche. D'un côté, vous faites le constat qu'il y a une tradition, pour le dire vite, socialiste, marxiste, pour laquelle c'est essentiellement des groupes sociaux humains organisés, et notamment ce que dans le marxisme on appelle la classe capitaliste, qui sont responsables de la crise écologique, du dérèglement climatique, et que c'est eux qu'il faut attaquer. C'est eux qu'il faut attaquer et contre leurs intérêts qu'il faut lutter. Et donc, dans cette tradition-là, ben, la politique se joue entre humains, c'est une affaire humaine. Et donc on a une forme de politique très anthropocentrée. Et de l'autre côté, vous mettez en avant le fait qu'il y a un autre courant de pensée qui est en train d'émerger très fortement ces dernières années, que vous rassemblez sous l'appellation « tournant non-humain », quelque chose d'assez interdisciplinaire qui vient à la fois des sciences de l'écologie et des sciences humaines, et qui reproche à l'approche, disons, socio-centrée, de trop se focaliser sur les besoins, les intérêts humains, et qui nous invite à nous décentrer et à penser la crise écologique non pas comme uniquement un résultat du capitalisme tel qu'on l'entend habituellement, mais comme une crise de nos relations avec les autres vivants, avec les vivants non humains, les vivants qui ne sont pas les humains. Et bah, la première question que je voulais te poser, c'est pourquoi cette opposition est-elle si forte? Comment est-ce qu'on en est arrivé finalement à ce que ces deux positions se regardent presque en chien de faïence, avec des accusations de dépolitisation d'un côté, d'anthropocentrisme de l'autre? Et est-ce qu'il y aurait une perspective de dépassement de ce conflit, puisque c'est un des objets de la première partie de votre livre?
Effectivement, du coup, nous, on essaie de cartographier un peu ces positions dans le début du livre. Et il y a ce qu'on appelle le tournant non humain, donc qui consiste à, on va dire, démocratiser ce qu'on appelle la puissance d'agir des choses, des êtres vivants, des milieux, des conditions de vie, et qui va, en fait, redéfinir ce que c'est agir, l'activité, l'action ou l'agentivité, qui est une sorte de néologisme pour traduire l'anglais « agency ». Et en fait, agit tout ce qui vient produire une différence dans un milieu, peu importe que ce soit un humain ou un non-humain, donc une plante, des arbres, des animaux, une rivière, etc. Donc c'est plutôt un courant qui est sous influence ou influencé par Bruno Latour notamment, tout un tas de recherches autour de ça. Et il y a cette volonté de dépasser l'opposition nature-société, donc ce dualisme qui ferait des humains les seuls êtres qui posséderaient une intériorité, une intelligence, une culture, des désirs, un inconscient, une histoire, et de l'autre une nature qui serait seulement, ben, finalement, un ensemble de mécanismes, de rouages inertes et insensibles. Et donc le tournant non humain consiste justement à dire que finalement il s'agit de repolitiser toutes nos relations à ces êtres dits non humains ou autres qu'humains qui en réalité sont les véritables bâtisseurs du monde, ceux qui engendrent la planète qu'on habite, la Terre. Et finalement, notre responsabilité, ce serait de fabriquer un monde avec ces autres puissances fabricatrices de monde. À ça, il y a une réaction assez forte, donc, que tu as soulignée, qui vient plutôt du courant marxiste ou éco-marxiste, avec des penseurs comme Andreas Malm, John Bellamy Foster, entre autres, qui va, au contraire, faire une espèce de contre-pied radical qui va consister à réinsister sur ces catégories de nature et de société, et à réinsister sur l'exceptionnalité de l'humain, en disant finalement, il n'y a que le sujet humain, et notamment le sujet humain en conflit, en lutte, qui est capable d'avoir une prise sur ses conditions d'existence matérielle, politique, et de cibler, cibler concrètement les responsables du ravage écologique.
Qui est le seul à pouvoir agir au sens fort du terme.
Voilà, qui est le seul à pouvoir s'organiser au sens de synchroniser des actions, cibler des ennemis, cibler des entreprises, des infrastructures, etc. Mmh. Ça, voilà, pour eux, voilà, les non-humains en tant que tels n'en sont pas capables. Et l'enjeu, c'est pour nous, en fait, d'arrêter de faire cette espèce d'opposition en chien de fusil où chacun se critique en disant « vous n'êtes pas assez politique » et les autres disent « finalement, vous êtes trop centré sur l'humain ». Et en fait, le livre, c'est précisément une tentative de dialogue ou de dialectisation entre ces deux grands courants avec l'idée que, finalement, nous ne sommes pas les seuls, effectivement, à pouvoir agir. Si on prend tous les acquis voilà, de l'écologie, de ce qu'il y a derrière l'hypothèse Gaïa, c'est-à-dire que les vivants, effectivement, ne sont pas indifférents et juste posés dans un monde inerte, mais qu'ils fabriquent les conditions du monde, l'atmosphère, les cycles de l'eau, de l'azote, etc. On peut aussi aller jusqu'à dire qu'il y a aussi des formes d'action qui sont des formes de résistance, de récalcitrance vis-à-vis de ce qu'on leur demande de faire dans des environnements de travail, de mise au travail. C'est toutes les plantes résistantes aux herbicides, c'est toutes les formes de réensauvagement, c'est toutes les formes de dédomestication. C'est aussi le fait qu'il y ait de plus en plus de méduses qui pullulent dans les océans du fait du réchauffement climatique, de l'acidification des océans, de la surpêche, qui viennent boucher les centrales nucléaires. Toutes ces formes non humaines d'action qui finalement viennent faire des sorte de barrage à cette volonté de mise en contrôle, de mise au travail pour la création de profits capitalistes. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est que il est possible de à la fois dire que les non-humains sont des acteurs puissants dans notre monde et qui ont des conséquences. Enfin, ces actions-là ont des conséquences politiques en tant qu'elles mettent en échec des processus de contrôle. D'artificialisation, etc. Et que néanmoins, c'est possible de ne pas dépolitiser ces actions-là dans la mesure où on garde une attention à cette question de l'organisation politique et des processus politiques dont les humains restent pour nous les seuls, pas les seuls acteurs, mais les seuls initiateurs au sens d'actions organisées qui ciblent des causes précises. Et du coup, l'enjeu, c'est de s'attaquer simultanément aux causes structurelles que les marxistes ont en vue, donc la question des classes sociales, la question de la valeur, la question des inégalités, et la question des cadres de perception. Comment on transforme nos cadres des perceptions par-delà nature et société, et qui fait que finalement, on n'est pas les seuls à agir, et que notre problématique, c'est comment des actions politiques portées par des humains peuvent porter sur ce qu'est le monde pour nous. Qui agit dans le monde, qui est mis au travail dans le monde, qui fait communauté dans le monde. Et finalement, le livre est une espèce d'enquête dans les luttes contemporaines pour comprendre, pour montrer que nous ne sommes pas les seuls acteurs à faire face au capital. Et du coup, c'est toute la question des alliances interspécifiques qui émerge à partir de là.
Et est-ce que tu pourrais peut-être nous donner, enfin, ou analyser un exemple plus précis d'action non humaine, justement. Là, tu faisais allusion à certaines plantes qui sont devenues résistantes à des OGM et à des actions qui ont pu voir des formes d'alliances improbables entre des paysans et ces plantes-là. Mais pour qu'on comprenne bien, parce que ça peut sembler déroutant pour beaucoup, l'idée qu'une plante ou un arbre ou des animaux puissent agir au sens humain, et en même temps, vous ne voulez pas écraser la différence qu'il y a entre les actions des non-humains et l'action humaine, en conservant l'idée qu'il y a une forme de coordination, d'anticipation qui serait propre à l'action humaine. Donc, je sais pas, est-ce que tu pourrais peut-être développer un ou deux exemples sur ça ?
Alors, c'est un exemple qui nous a marqué, je pense, qui est assez explicite. En fait, c'est donc une plante qui s'appelle l'amarante, qui est une plante sauvage qui, malheureusement, pour les grandes multinationales, pousse assez spontanément dans les champs de monoculture de soja OGM, notamment aux États-Unis et en Amérique du Sud. Et il y a un cas assez intéressant de ce qu'on appelle l'alliance interspécifique qui est née en Argentine. En fait, déjà, faut savoir que en fait, de plus en plus, l'agriculture, les biotechnologies, donc les OGM, etc., font de plus en plus face à ce qu'on appelle des super mauvaises herbes. Donc, c'est plus seulement des mauvaises herbes traditionnelles qu'on a tous dans nos jardins, même si c'est un terme assez impropre, mauvaises herbes. Il n'y a pas de mauvaises herbes en soi, au point de vue botanique. Mais c'est devenu des super mauvaises herbes, ces plantes sauvages qui poussent dans les champs de soja OGM, parce que, en fait, elles ont réussi à multiplier en fait les gènes qui sont ciblés par le glyphosate, notamment l'herbicide total de Monsanto, le Roundup, et à tel point que c'est ils appellent ça un fléau agricole, c'est une catastrophe agricole aux États-Unis, en Amérique du Sud notamment, alors en France un petit peu moins, mais il n'y a pas moins de 262 plantes, je pense, qui sont répertoriées aujourd'hui comme étant résistantes aux herbicides de toutes sortes. Et il y a jusqu'à 50% des fermes aux États-Unis qui sont mises à mal par ces plantes résistantes, ces super mauvaises herbes. Et donc le cas qui nous intéresse, il est intéressant parce que c'est pas seulement des champs qui partent en déroute, c'est des activistes et des paysans en Argentine, pour l'exemple qui m'intéresse, qui ont fait alliance avec ces plantes qui résistent dans les champs de monoculture. Donc c'est massivement des pays, notamment en Argentine, où c'est peut-être à 70-80% où les champs sont convertis de force à l'agriculture OGM, avec le combo pesticides balancé par avion, etc., avec les habitants qui habitent tout proche. Donc ils subissent aussi une sorte d'injustice environnementale du simple fait d'être là, quoi. Et en fait, la stratégie des paysans et activistes argentins, ça consistait à récolter des graines d'amarante résistantes au glyphosate, d'en faire ce qu'on appelle des bombes à graines. Donc, c'est pas des bombes qui explosent, mais c'est des petites bombes de graines résistantes avec de l'argile, voilà, de la terre végétale, et que les activistes collectent et envoient dans les champs d'OGM pour amplifier la puissance d'agir, la puissance de sabotage des champs de soja OGM. Et il y a ce geste, du coup, qui est intéressant parce qu'il, de lancer de bombes à graines, parce qu'en fait, il crée une sorte de réseau d'actes entre les amarantes sauvages et les paysans pour co-amplifier leur puissance d'agir réciproque. Et du coup, les paysans argentins conçoivent cette action de l'amarante comme une revanche des amarantes sur les colons et sur les multinationales, voilà. Et que du coup, ce qui est intéressant, c'est que, pour finir, c'est l'amarante, en fait, c'était une divinité précolombienne qui était la divinité de l'immortalité, infléchissable, etc. Et finalement, c'est une manière de faire ressurgir une divinité qui a été complètement écrasée par la colonisation et qui revient en force dans ces champs d'OGM et qui est une sorte d'initiative végétale que les activistes ont considérée comme telle, c'est-à-dire du même côté qu'eux. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'une alliance interspécifique, parce qu'il y a un front commun qui se dessine face à non seulement Monsanto, les multinationales, mais aussi les soja OGM et le type d'agriculture qui est mis en place. Ah. Et juste pour voilà, cet exemple-là, il est traité par une chercheuse qui s'appelle Katarzyna Bejlin, qui nous a mis le doigt sur cet exemple, et du coup, ça a ouvert complètement l'imaginaire pour nous, en tant que ça change ce que ça veut dire l'action politique ici en France et ici en Occident, quoi.
Et avant de donner la parole tout de suite à Maxime Chédin, juste pour aller jusqu'au bout de cet exemple qui est effectivement fondateur de votre recherche et de votre livre, c'est que une fois jetées ces bombes à graines d'amarante, est-ce que ça sabote véritablement la culture OGM ? Est-ce que ça produit un effet de blocage de ces cultures, ou est-ce simplement un geste de vengeance, comme tu viens de le dire ?
Bah. Nous, ce qu'on sait de cette histoire, c'est que c'est les deux en même temps. Enfin, il y a une dimension, effectivement, de... Les amarantes laissées à elles-mêmes, elles vont jusqu'à bloquer 70%, 80% des récoltes. C'est-à-dire que c'est une plante extrêmement dure à déraciner, et du coup, de manière mécanique. Et c'est tout un casse-tête pour arriver à l'enlever. Et finalement, il y a des champs entiers qui sont abandonnés. Et donc, l'enjeu, c'est d'amplifier cette capacité de blocage. Après, en termes de chiffres, là, c'est pas forcément la question, mais
il y a peut-être. Mais c'est pas juste une métaphore, en tout
c'est
cas.
Pas juste une métaphore.
De ma question,
voilà.
c'est opératoire.
Il y a un vrai blocage matériel, effectivement, avec une fois que les amarantes sont là, en fait, c'est elles n'ont pas le même cycle de reproduction. Elles sont plus rapides que le soja, donc elles ont des capacités, micro-capacités végétales, qui les rendent sérieusement dérangeantes, quoi. Et oui, il y a une dimension symbolique, mais faut pas oublier que, enfin, c'est aussi nous, on a du mal avec ces exemples-là où les plantes agissent et on a tout de suite envie de dire, mais c'est symbolique. Enfin, c'est nous qui disons qu'elles agissent. Mmh. Alors que dans d'autres manières de voir le monde, de se relier au monde, notamment non moderne et non occidental, plus animiste par exemple, il y a cette idée d'emblée qu'on n'est pas les seuls à agir et que du coup, c'est toujours la politique peut devenir une composition de puissance d'agir en communauté.
Mmh. Justement, je voulais rebondir sur cette question de l'animisme là que tu évoques, puisque vous faites aussi l'hypothèse dans le livre qu'il y a on pourrait parler d'une mutation des sensibilités qui est en train de se produire. Vous parlez de réenchantement, de nouvelles formes d'animisme, de nouvelles attentions, de nouvelles sensibilités aux autres vivants, aux vivants non humains. Alors on pense bien sûr à toute la production culturelle autour de l'intelligence des animaux, de l'intelligence des arbres, la réappropriation de médecine traditionnelle autour des plantes, les nouvelles formes d'agriculture, de permaculture qui se diffusent, etc. Et donc, effectivement, on sent quelque chose de cet ordre-là, de cette sensibilité, attention à des formes de vie qui ne soient pas qu'humaines. Et vous, à ce propos-là, vous parlez d'un affect terrestre qui serait en train de naître, qui serait en train d'émerger, pour qualifier ce mouvement. Affect terrestre qui viendrait exprimer cette idée qu'on prend conscience que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas seuls à vivre, à habiter sur cette terre et qu'on doit composer avec les autres vivants. Et jusqu'à présent, cette idée que la révolution écologique doit d'abord être spirituelle, doit d'abord être intérieure, doit passer par un changement de regard, un changement de notre manière de nous relier, de nous rapporter au monde, ce qu'on a souvent appelé le changer de récit, elle a souvent été jugée et critiquée comme dépolitisante, et vous explorez cette critique dans le livre en disant oui, on pourrait parler d'une espèce de bulle privée inoffensive, voire de nouveaux produits de consommation culturelle. Voilà, on n'a jamais vu autant de documentaires sur les animaux que pendant la sixième extinction de masse des animaux, comme si tout ça était parfaitement conciliable. Et donc on peut se demander, faire l'objection, est-ce que c'est pas le signe d'une impuissance politique, c'est-à-dire est-ce que on ne serait plus, parce qu'on n'est plus capable de s'attaquer aux causes structurelles politique humaine de la catastrophe écologique, on se replie sur cette nouvelle sensibilité. Et vous pensez au contraire que cet affect terrestre, il peut être politisé, il peut devenir un moyen de lutte écologique et sociale. Et du coup, j'aimerais que tu nous expliques comment tu penses ça.
Ouais. Bah, effectivement, nous, ce qu'on appelle l'affect terrestre, c'est pas une donnée sociologique, c'est-à-dire c'est pas une radiographie sociologique de où en serait l'état des sensibilités chez nous. C'est plutôt un ressenti de ce qui traverse beaucoup de gens en ce moment, qui peut être très inégalement réparti selon les couches de la population, ça c'est une vraie question, et qui peut tout à fait être mise en économie, et on voit bien qu'il y a toute une économie culturelle qui se met en place autour de l'intelligence des arbres, de... Voilà. Après, c'est pour nous, c'est pas en soi condamnable. C'est-à-dire que c'est au moment même où il y a le ravage écologique le plus profond qu'il y a une espèce de réveil des sensibilités quant à la Terre, à notre appartenance au vivant, au tissu du vivant. Et on pourrait même aller plus loin dans la critique de cet affect terrestre en disant, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi certaines entreprises à la pointe du capitalisme qui aujourd'hui ne sont pas en train de mais aussi de tirer des enseignements finalement du tournant relationnel, du tournant écologique. Dans le livre, on évoque un exemple où c'est des agriculteurs en Angleterre qui dans un contexte industriel qui décident d'arrêter le labour, donc le travail du sol par la machine, parce que finalement, ils ont retrouvé une forme d'attention à leur sol qui est plus simplement une espèce de matière inerte dans laquelle on mettrait des graines, mais qui est en fait un tissu de relations vivant avec une faune, une flore, microfaune, microflore, dont il s'agit de prendre soin. Finalement, le sol devient un co-travailleur, un co-producteur de la récolte, et un co-producteur du profit. Et donc, il y a de manière explicite une traduction d'une sorte d'affect terrestre, il y a un tournant écologique, relationnel, dans une certaine pointe de l'agriculture. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a un grand changement de paradigme au niveau du capitalisme, ce n'est pas du tout la question, et on voit bien que c'est faux, quoi. Que les forces destructrices, elles restent dans une perception très inerte du monde, quoi. Sauf que, nécessairement, les savoirs écologiques circulent, le capitalisme et l'agro-industrie n'est pas indifférente à la technoscience et aux nouveaux savoirs écologiques, et donc eux aussi se saisissent de la fascination pour les bactéries, les mycorhizes, c'est-à-dire les connexions champignons-racines. Et donc, effectivement, dans une situation où l'affect terrestre n'est pas en soi un affect politique d'emblée. Et nous, ce qu'on veut faire avec la proposition ou l'hypothèse des alliances interspécifiques, c'est précisément appuyer sur cet affect terrestre pour activer ses potentialités politiques. Et que, en introduisant la question de l'alliance, c'est d'emblée traiter les autres vivants comme des acteurs capables de perturber le monde qui nous est fait, qui nous est imposé. Et de là, on peut réimaginer tout un nouveau répertoire d'actions politiques qui vise justement à produire des ruptures avec ce qu'on appelle, nous, la mise au travail du monde et des vivants.
Mais en quoi ce que tu décris, Antoine, est au-delà d'une perception ? Et une perception, c'est déjà très important et c'est fondamental, c'est notre rapport au monde. Donc il ne s'agit pas du tout de minimiser l'importance de la perception. Mais en quoi est-ce que l'exemple que tu viens de donner sur l'abandon du labour au nom du rapport de ces paysans avec le monde, l'écosystème vivant sous leurs pieds, en quoi est-ce que ce n'est pas autre chose qu'une attention, voire même peut-être une attitude ? Et en quoi est-ce que ça pourrait dégager une stratégie d'action ? C'est qu'on voit bien l'aspect contemplation-regard, regard qui change. En quoi ce regard, il est producteur d'autre chose que simplement la modification de la perception de la personne ?
Déjà, c'est de dire que politique et perception, ce n'est pas deux sujets séparés. C'est-à-dire que la politique, une action à portée révolutionnaire ou de rupture, elle est toujours, comme le dit Jacques Rancière, une modification du paysage sensible que les uns et les autres peuvent percevoir. Parce que ça modifie, par exemple, qui est capable de prendre part au commun, décisions communes, est-ce que finalement ceux qui travaillent ne sont que là pour travailler, ceux qui étudient sont que là pour étudier, ou est-ce que justement les moments politiques, c'est un bouleversement du champ perceptif sur qui compte, qui agit et qui est capable de produire une transformation des représentations et des modes d'organisation. Et du coup, les actions qu'on met en avant dans le livre, elles ont à voir avec ce trouble de la perception à l'intérieur même des actions politiques. Et pour prendre un autre exemple, on a des camarades qui luttent en ce moment sur un contournement routier à l'est de la Loire, près de Orléans, sur la commune de Mardier. Et en fait, ils ont eu cette stratégie, pour le coup, assez inventive, où ils ont, dans la forêt qui était menacée, installé avec des naturalistes une plateforme nichoir pour des balbuzards pêcheurs, qui sont une espèce de rapace protégé par la France et l'Europe. Donc c'est des oiseaux migrateurs qui vont et viennent entre la France et l'Afrique de l'Ouest, et qui se nourrissent de poissons de la Loire, pour le coup. Et ils savaient qu'il y avait des balbuzards qui passaient dans cette zone-là. Et en fait, ils ont construit cette plateforme pour justement, depuis une forme d'attention aux vivants, une forme de connaissance des migrations des oiseaux, de leurs besoins, de leurs nécessités. C'est pas pondu comme ça, c'est du fait d'une certaine attention aux vivants, une attention fine. En fait, il y a eu cette stratégie qui a été mise en place, une stratégie qui inclut la présence d'autres espèces dans le plan d'action lui-même. Et du coup, c'est inviter des oiseaux à s'installer dans une forêt et qui sont protégés. Parce qu'ils sont protégés, ils vont protéger la forêt qui est menacée. Et après, c'est toute la question de est-ce qu'on utilise les oiseaux, est-ce qu'on les met pas au service d'une cause qui leur est étrangère. C'est une grosse question qu'il faut absolument affronter, parce que est-ce que les alliances, c'est juste une manière de poursuivre une forme d'instrumentalisation des autres vivants. Et du coup, là, l'enjeu, c'est de montrer que non, au sens où une plateforme, c'est juste une invitation, c'est une manière de créer une condition d'accueil qui est refusable. Et que du coup, c'est traiter les autres vivants comme étant capables de répondre à nos propositions et de dénier nos propositions. Et du coup, là, il se trouve que ça fait plusieurs années que les coupes de Balbuzard reviennent, ils ont fait des petits, etc. Et jusque-là, cette stratégie, elle prouve une sorte d'efficacité. Alors même si le Balbuzard est migrateur, donc il faut prendre le relais à la suite du Balbuzard quand il repart en Afrique de l'Ouest. Donc ça invite aussi à s'intéresser aux luttes qu'il peut y avoir en Afrique de l'Ouest, s'il n'y a pas d'autres ponts qui sont construits là-bas sur les fleuves. Et du coup, voilà, je pense que c'est ce genre d'exemple qui peut montrer que l'affect terrestre, il considère une forme de réattention, de réanimer l'attention au monde, en même temps qu'on réactive une manière d'attaquer politiquement les projets qui nous sont néfastes. Et du coup, d'avoir une vraie incidence matérielle et pas seulement réanimer, réenchanter l'attention pour elle-même.
Merci beaucoup Antoine. On va te demander maintenant de quitter le plateau et de permettre à Léna Ballot de te remplacer. Mais merci beaucoup de ce début de conversation. Et Maxime, tu vas pouvoir bien sûr enchaîner avec tes questions. Bonjour Léna Ballot, merci beaucoup d'être venue aussi à Mediapart pour cette discussion. Donc tu es la co-autrice du livre « Nous ne sommes pas seuls », écrit avec Antoine, que nous venons de recevoir. Donc on a organisé cette discussion en deux parties du fait des contraintes de Covid qui nous empêchaient d'avoir tout le monde en même temps. Mais finalement, ça crée aussi un rythme de discussion qui est peut-être pas inintéressant. Il y a une itération de nos questionnements. À ce stade de la discussion, peut-être ce qu'on aimerait te demander, c'est quand on vous entend tous les deux, Antoine et toi, citer tous ces mouvements militants, qui commencent à utiliser le rapport à la nature comme fondement de puissance d'agir. Donc on peut repenser au slogan « Nous sommes la nature qui se défend » qui a été beaucoup utilisé en France depuis 2015, ou vous citez même « Nous sommes la Loire qui se défend ». Donc on voit c'est une formulation qui se répand. Évidemment, c'est difficile d'éviter la question de peut-on parler, nous, en tant qu'humains, à la place des non-humains, alors à la place des animaux et des végétaux, dire « nous sommes la nature qui se défend », est-ce que ce n'est pas une manière de s'approprier, en fait, des formes d'agir qui, en fait, ne sont perçues que par notre regard ? En quoi est-ce qu'on peut éviter une forme, du coup, de néocolonialisme humain anthropocentré sur ce qu'on projetterait sur les actions de ces non-humains dont on parle ?
En tout cas, l'enjeu de notre propos, c'est pas de résoudre toutes les questions de la représentation, ni toutes les questions morales que ça ouvre, effectivement, cet acte de parler pour des êtres qui ne parlent pas des langages humains. Notre propos, il est plus à l'endroit de, finalement, qu'est-ce que c'est la politique ? Et la politique, c'est quelque chose qui transforme le monde, ça veut dire que c'est pas d'abord quelque chose qui va émaner d'humains, comme on s'autorise à le penser, d'humains qui simplement se rassemblent autour d'intérêts communs, d'identités communes, et qui revendiqueraient des choses par rapport à ces intérêts communs. En fait, la politique, elle commence quand on dit nous, on dit un nous improbable, un nous qui va, par le fait même de rassembler des êtres et des groupes qui n'étaient pas supposés se penser ensemble, ça va transformer la perception du monde, la perception des lignes de conflit. Par exemple, on peut penser à certains slogans qu'on a pu entendre au printemps dernier, en 2020, après le déconfinement, dans les manifestations des jeunes pour le climat, qui reprenaient des variations de « I can't breathe » et autour de « respirer », etc., qui renvoyaient directement en fait, au mouvement de l'autre côté de l'Atlantique, au mouvement Black Lives Matter, et qui renvoyait aussi effectivement à la situation Covid et évidemment au climat en premier lieu. Mais le fait de faire ces reprises, finalement, ça vient connecter deux problématiques politiques qui pourraient être prises séparément, finalement des problématiques politiques où on fait tout pour les penser séparément, mais le fait de les relier, ça construit des solidarités là où on les attend pas forcément, et ça construit des lignes de conflit où finalement les personnes qui vont reprendre ces slogans-là se rendent capables de concevoir une écologie qui va être d'emblée égalitaire, d'emblée soucieuse des injustices environnementales et raciales, par exemple.
Est-ce que, par exemple, pour continuer dans l'illustration en fait de cette alliance, est-ce que la montée de la question de l'écocide est une formulation de est le résultat d'une perception accrue de d'alliances interspécifiques? Le fait de considérer que c'est, comme on a pu parler de génocide, comme on a pu parler d'ethnocide, que maintenant on parle d'écocide, c'est-à-dire qu'on posait la gravité irréversible et solennelle de la destruction de l'écosystème comme un crime proche de ce qu'on appelle crime contre l'humanité. Est-ce que ça peut être une formulation de ce que vous décrivez ?
Oui et non. Oui, parce que c'est un mot qui dit le sort commun partagé par... des non-humains et des humains qui sont très malmenés dans leurs conditions matérielles et écologiques d'existence. Mais ce qui est intéressant avec justement les slogans déjà cités, « Nous sommes la loi qui se défend » ou « Extinction Rébellion » avait un tas de slogans, « Nous sommes la rage du facochère », etc. C'est que ça passe par un autre qui sera jamais tout à fait soi, quoi. Les militants qui disent « nous sommes la Loire », ils ne sont pas la Loire.
Pourquoi c'est intéressant alors de dire « nous sommes la Loire » alors qu'à l'évidence, ils ne sont pas la Loire, ceux qui disent ça?
Parce que ça vient troubler les catégories qui sont censées ordonner notre perception du monde. Et du coup, ça vient bouleverser le statut, notamment des non-humains et des vivants ou des fleuves qu'on cite. Et donc l'action qui est contenue dans ces énoncés, c'est aussi l'action de reconnaître comme acteurs de la lutte ces êtres-là, de les reconnaître comme résistants au même titre que nous, et du coup de nous décentrer d'une politique qui serait simplement humaine, sociale. Et donc c'est des actions qui... ces actions de parole, c'est des actions qui...
On peut entendre une forme de vulnérabilité, par exemple, je trouve, dans l'affirmation de la part de groupes humains, de collectifs militants ou d'habitants, pas forcément militants, mais d'habitants, de s'identifier, enfin de s'identifier, peut-être pas s'identifier justement, mais de se rapporter à une forêt, un fleuve, un champ, un oiseau migrateur qui vit avec eux, à côté de chez eux. Je trouve qu'on peut entendre une forme de vulnérabilité de la part de ces humains dans l'affirmation de, en fait, on est là que parce que il y a à côté ce fleuve, cette forêt, il me semble qu'il y a, il y a quelque chose de la déconstruction de la surpuissance ou de la recherche de surpuissance politique qui peut s'entendre aussi, une forme de modestie. Je trouve qu'il peut s'entendre aussi dans ce rapport.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, ça articule cette modestie, cette vulnérabilité, c'est-à-dire la reconnaissance qu'effectivement, on dépend de ces autres êtres. Et effectivement, on s'y identifie sans que ça puisse vraiment être une identification réelle. C'est plus une identification de type de solidarité. Mais d'un autre côté, ça, c'est aussi une manière de parler, non pas à leur place, mais depuis nos puissances d'agir communes ou alliées, justement. Donc c'est aussi depuis... c'est depuis nos vulnérabilités, mais aussi depuis la puissance qu'on peut identifier si on considère que finalement leurs actions parfois et nos actions sont alliées et vont dans le même sens. Et donc on peut parler non pas à leur place, c'est-à-dire non pas en essayant de dire ce qu'ils auraient dit s'ils avaient parlé de langage humain, mais depuis cet agir commun, en fait.
Dans le livre, vous vous proposez de partir, une redéfinition aussi de notre identité, ne plus définir comme humain, ne plus définir non plus simplement comme citoyen ou sujet politique de la société humaine, mais se définir comme terrestre, comme vivant terrestre. Et en disant que c'est en fait que justement, comme le disait Antoine tout à l'heure, il s'agit pas simplement d'en faire un affect de sensibilité esthétique dépolitisé, mais que c'est à partir de cette redéfinition qu'on pourra se confronter à ceux que vous appelez les militants du capital, du système qui est le responsable responsable principal du ravage écologique. Et du coup, la question que je voulais poser, c'est comment est-ce que, à partir du livre, vous pouvez penser le fait que se sentir terrestre, s'éprouver comme terrestre, peut s'élargir, peut ne pas être réservé à une minorité qui aurait les moyens, ou enfin, c'est pas une question de moyens, mais qui serait sociologiquement située, qui serait en condition d'habitation, d'habitabilité pour éprouver ce sentiment-là, et qu'une autre partie de la population se sentirait peut-être moins touchée par cet appel-là. Et donc, il y a des pistes qui sont ouvertes dans le livre, mais voilà.
Oui, c'est une question importante. Et c'est vrai que ça pourrait apparaître en premier lieu comme un luxe de personnes, notamment qui sont plus en contact avec en zone rurale, avec des milieux dits naturels, etc. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que il y a des luttes qui sont dites sociales, qui ont déjà en quelque sorte des intuitions très communes avec ce qu'on appelle nous la perception terrestre. On peut par exemple penser à tous les mouvements de justice environnementale qui finalement mettent le doigt sur le fait que les inégalités, elles se placent pas seulement à l'endroit symbolique et économique, mais aussi à l'endroit des conditions matérielles et écologiques d'existence, et que les agencements dans lesquels on est pris, les agencements avec les milieux qui nous entourent dans lesquels on est pris, avec les endroits pollués, etc., finalement, c'est complètement rempli de rapports de pouvoir. C'est pas écologique, donc pas politique. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est déjà en cours, en fait. Depuis des luttes dites sociales, cette perception-là, disons, cette perception écologique de la politique, elle est déjà en cours.
Mais il n'y a pas que ça, moi, je trouve, si je puis me permettre d'appuyer la question de Maxime, je trouve qu'il n'y a pas que ça, votre livre va beaucoup plus loin. C'est pas simplement du racisme environnemental ou des inégalités environnementales, c'est vous posez l'hypothèse de la possibilité d'alliance avec d'autres espèces. Donc ça va beaucoup plus loin que se rendre compte que quand on est pauvre, on a plus de risques de vivre dans un quartier pollué, par exemple, si on habite en ville. Et c'est vrai que on en discutait avec Maxime et en préparant l'émission, et une des questions que ça pose, c'est de se dire, mais en fait, pour des personnes qui sont coupées de l'accès à la nature, qui est quand même le cas d'énormément de monde vivant en ville, où l'accès à la nature il est rendu impossible par un environnement de béton, de voitures, d'échangeurs autoroutiers, de périphériques, mais aussi par les rythmes de vie qui sont ce rythme de vie urbain, de travail fragmenté, donc avec des longs temps de transport sans arrêt enfermés, bon, etc., etc. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous décrivez, qui fait quand même très envie, en fait, comme ouverture des perceptions, ça peut exister dans des contextes urbains ?
Oui, bien sûr.
Mais comment ?
Après, c'est aux urbains de l'inventer, mais par exemple, il y a un mode d'action qui n'est pas nouveau, qui est en anglais, c'est les guérilla grafters, donc les greffeurs, les guérilla greffeurs. Notamment à San Francisco, mais en fait il y en a dans pas mal de grandes villes. Donc c'est des groupes qui identifient justement la ville comme un espace où il y a une pauvreté, notamment alimentaire, où est organisée une pauvreté alimentaire, alors qu'il y a des végétaux partout, mais c'est des végétaux qui sont sélectionnés pour être ornementaux. Et en fait, bien souvent, c'est des espèces fruitières, mais c'est des variétés ornementales qui ont été sélectionnées. Et en fait, donc ces greffeurs, ils vont greffer des variétés fruitières sur ces arbres ornementaux pour fabriquer des communs comestibles. Parce qu'ensuite, du coup, quand les greffes marchent, les arbres des rues produisent des fruits. C'est vraiment une manière de manière à la fois symbolique et matérielle de refabriquer un environnement sain, de la nourriture saine et commune au sein même des villes. Et en fait, ce qui importe là-dedans, c'est aussi que c'est des actions qui décloisonnent la question de l'écologie et les questions sociales. Et en fait, ce décloisonnement-là, il est essentiel pour les enjeux politiques aujourd'hui, parce qu'on voit bien, avec le Covid, mais plus largement, que notre être de vivant et notre vulnérabilité de vivant va être un enjeu de plus en plus fort des inégalités. La vulnérabilité, elle a jamais, nos vulnérabilités de vivant en tant qu'humain, elle a jamais été aussi forte, elle a jamais été aussi mal répartie, et ça va continuer comme ça, quoi. Et donc, en fait, les alliances, ce type d'action, ça nous permet aussi de vraiment décloisonner ce qui est prétendument politique, des questions sociales, etc., et notre être de vivant qui est qu'on a appris à séparer de la politique. Alors qu'en fait, c'est là que vont se jouer les plus grandes inégalités à l'avenir. Et donc, nous, notre idée, c'est vraiment d'essayer de contribuer à une culture politique qui remet au centre la question de nous comme être de vivant au sein de relations avec le milieu, et de construire un communisme qui serait plus un communisme des producteurs, mais un communisme des habitants, un communisme du soin, comme disait un ami, qui donc permet de répondre aux injustices là où elles sont en train d'être les plus fortes, quoi.
Dans le livre, vous parlez communisme désaffecté. Des personnes affectées, enfin des êtres qui sont affectés. Voilà, quoi. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu mieux ce que vous entendez par cette hypothèse, parce qu'elle est intéressante?
C'est vraiment une formule qui essaye de désigner, au-delà des différences d'espèces, des différences de situations, comment on peut quand même identifier des causes communes entre certains humains qui essayent juste de vivre quelque part et, dans certaines situations, des végétaux, des êtres vivants, qui eux aussi tendent vers des formes de résistance à des conditions invivables et qui finalement subissent les mutilations de leur milieu de par les mêmes adversaires, quoi. Même si c'est un parallèle qui paraît étrange, parce qu'on est au-delà d'un communisme humain, mais je pense qu'on peut parler de cause commune en ce sens, au-delà de l'humain, quoi.
Mais il y a aussi, je faisais allusion à cette expression parce que dans le livre, elle se réfère aussi au fait que on subirait une forme de condition ou de sort commun, nous humains et les autres formes de vie non humaines, mais aussi même non vivantes, dans le fait qu'on serait tous également mis au travail au service du système capitaliste. Et il y a toute une partie importante du livre qui se sert des analyses de Jason Moore sur l'idée qu'il faut complètement repenser ce que c'est que le capitalisme, ne pas le penser comme un simple système économique qui exploite une nature qui est à l'extérieur, mais Moore, que vous reprenez à cette expression qui peut sembler un peu étonnante, de dire en fait le capitalisme, c'est une écologie, et on se bat contre une écologie, et nous on promeut une autre écologie, et dans cette écologie du capitalisme, pour lutter contre elle, le premier moment, ce serait de prendre conscience que nous ne sommes pas, nous humains, les seuls exploités, que nous ne sommes pas les seuls êtres mis au travail, mais que, en fait, il y a toute une chaîne de ce que vous appelez le travail invisible, dans laquelle ce sont des non-humains, des autres vivants, des végétaux, mais aussi du vent, des rivières, des fleuves qui sont mis au travail et qui subissent une condition qui est proche de la nôtre. Et c'est à partir de là qu'il y a cette idée du communisme désaffecté.
La machinerie capitaliste, pour exister et pour générer du profit, a non seulement besoin effectivement des travailleurs exploités, mais de tout un tas de conditions et d'agencement des relations avec d'autres humains et avec les autres éléments du milieu, pour que des conditions pour que ça puisse avoir lieu, quoi. On connaît le slogan féministe ouvrier de tous les pays qui lave vos chaussettes, mais en quelque sorte, voilà, et qui épure vos eaux, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, donc ça fait apparaître un communisme désaffecté, ça fait apparaître des causes communes, mais surtout ça fait apparaître des potentiels éléments stratégiques, parce que en fait, ça peut ouvrir d'une part une perception collective d'un refus de cette mise au travail, c'est-à-dire un refus de ces écosystèmes de la domination, et ça fait aussi voir la manière dont les capitalistes dépendent des travailleurs, d'une part, mais aussi de tous ces écosystèmes agencés pour faire du profit. Et donc, ça peut nous faire voir que quand les mauvaises herbes commencent à envahir les monocultures et à faire dériver ces écosystèmes vers des agencements qui sont beaucoup moins productifs, finalement, c'est des soulèvements spontanés des vivants qui peuvent, avec lesquels on peut s'allier, qu'on peut chercher à amplifier pour aller à l'endroit où le capitalisme est dépendant de nous vivants et d'autant plus dépendant aujourd'hui avec la crise écologique. Quoi.
Votre livre paraît au moment où se déroule toute une campagne d'action à travers la France qui s'appelle les soulèvements de la Terre. Et ces soulèvements de la Terre, en fait, se fixent comme objectif de bloquer des projets d'aménagement destructeurs de terres naturelles agricoles et voire d'occuper ces terres. Donc il y a eu des actions à Besançon en défense de jardins ouvriers, des actions à Rennes contre une extension d'un stade de foot qui a porté atteinte à des terres agricoles, toute une série d'actions. Et il y en a au mois de juin qui concernent cette fois-ci plutôt la filière béton-ciment, l'extraction de sable en Loire-Atlantique et puis les centrales à béton en Île-de-France. Et c'est intéressant parce que le sous-titre de votre livre, c'est « Pour une politique des soulèvements terrestres ». Donc on est vraiment dans une affinité de vision. Est-ce que vous pourriez, pour terminer, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, nous expliquer ce que vous entendez par des soulèvements terrestres et pourquoi ce mot « soulèvement » ? Parce qu'on voit bien que, par exemple, ce n'est pas « révolution », donc c'est « soulèvement ». Donc qu'est-ce qui porte, en fait, ce terme ?
Effectivement, pour nous, soulèvement terrestre, ça veut d'abord dire que on n'est pas les seuls à résister et à se soulever face à la mise au travail du monde, et que voilà, on n'a pas été les premiers à commencer à mener des actions de résistance pour résister à des logiques écologiques, des logiques relationnelles qui sont complètement mutilantes. Et c'est vrai que le mouvement des soulèvements de la Terre, c'est vraiment intéressant parce que ça fait vraiment partie de... C'est vraiment une belle incarnation de... à la fin du livre, on en appelle à un mouvement d'autonomie écologique populaire. Et là, c'est vraiment une super belle incarnation de ça.
Et pourquoi ? C'est quoi ? Pour expliquer en quoi ? Autonomie d'écologie populaire ?
Eh bien... notamment parce que en fait ça relie vraiment justement des questions d'égalité et d'autonomie politique aux questions très très concrètes et écologiques de l'accès à la terre, de l'accès à des milieux sains, etc. Et aussi parce que c'est quand même une belle réussite de travail de composition avec justement des groupes et des sensibilités qui parfois peinent à travailler ensemble. Mais c'est vrai que nous, l'inflexion qu'on pourrait rajouter à ce mouvement-là, ce serait d'en appeler aussi, non seulement à des reprises de terre, mais aussi à des déprises de terre, c'est-à-dire insister sur l'importance de laisser de la place aux autres habitants, l'importance pas seulement parce qu'on est grand seigneur, mais parce que c'est au cœur, d'une part, de du soin d'écosystèmes vivables, mais aussi d'une transformation de notre perception du monde, où on serait enfin plus au centre des acteurs, mais on serait des habitants parmi d'autres.
Des prises de terre, dans le sens que ça pourrait être par exemple empêcher un projet d'autoroute ou une extension de parking pour protéger une terre, pas pour la mettre en culture, mais pour la laisser vivre sa vie de prairie, pour... laisser y vivre les non-humains qui y vivent, c'est ça ?
Oui, ça, ou par exemple, on pourrait imaginer une future action de la série des soulèvements de la Terre, où ce serait une action de destruction d'un barrage qui coupe la voie des poissons pour remonter laisser une rivière reprendre son cours non canalisé, par exemple.
Merci beaucoup, Léna, d'être venue parler du livre et d'avoir joué le jeu de cette interview en deux temps. Donc, merci beaucoup à Antoine Chopot, qui est sorti du plateau, mais qui est toujours à côté. Et Maxime, merci infiniment de cette lecture, de tes questions. Et c'est vraiment toi qui as proposé qu'on discute de ce livre dans le cadre des émissions qu'on organise parfois avec la Revue Terrestre. Donc, voilà. Merci à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. On ne peut que vous encourager à lire ce livre et à suivre les actions des soulèvements de la Terre, et à bientôt sur Mediapart.